religion et philosophie, on a là trois champs de la pensée humaine qui sont très vastes, qui ont derrière eux un grand historique qui est chargé. Suivant la façon dont on prend les choses, qui a plusieurs millénaires, pour la théosophie, comme on l'a entendu, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. En Occident, dans la pensée occidentale, il est surtout centré sur les penseurs du monde occidental, la Grèce, les penseurs latins, etc. Mais en fait, on va voir peut-être à quelques détours qu'effectivement c'est beaucoup plus large. Alors, quelle relation y a-t-il et quel rapport y a-t-il entre ces trois champs, la science, la religion et la philosophie? On a tous bien sûr une opinion, mais est-ce qu'il faut chercher à les concilier? Est-ce que on peut les concilier? Concilier dans le sens de les rendre harmonieux pour leur permettre de résider ensemble, de faire cohabiter ce qui paraît contraire en fait. On va voir que, on va dans un premier temps, on va s'intéresser séparément à chacun de ces domaines, la religion, la science, la philosophie. On va regarder quelques définitions, sachant qu'il n'y a pas de définition absolue de chacun et que chaque auteur y va de sa propre définition, bien entendu. On va faire aussi une petite analyse à la lumière de la critique théosophique que l'on peut faire sur ce sujet. Ensuite, on parlera du mouvement théosophique moderne lancé par Madame Blavatsky, comme ça a été indiqué, ce mouvement théosophique moderne à la fin du 19e, avec ses trois buts de ce mouvement et l'importance que ça revêt. Ensuite, on abordera, et ça c'est incontournable dans le sujet, la doctrine secrète. Par plusieurs aspects, en fait, on regardera le titre, quelques éléments de la préface, cette notion de religion-sagesse qui déjà, dont Madame Blavatsky en parlait dans Isis dévoilée, qui était son premier ouvrage paru en 1877. On abordera aussi, et ça c'est évidemment incontournable, les trois propositions fondamentales de la philosophie et de la théosophie. Parce que si on parle de philosophie, il est clair qu'on verra un peu le rôle que ça représente et ce que c'est comme possibilité pour chacun. Ensuite, on abordera rapidement les implications pratiques et puis on essaiera de conclure sur cette conciliation ou pas. Alors d'abord, on va commencer par la religion en fait. Bon, la religion, c'est... il y a plusieurs choses à dire. Hein. En Occident, c'est essentiellement un terme qui vient du latin « religio ». Il faut savoir que les Grecs n'avaient pas de mot pour désigner la religion, en fait. Et que chez les Latins, le mot « religio », alors il y a des origines, effectivement, qui sont discutées. Soit « religare », c'est l'idée d'un lien. Alors d'un lien entre certaines pratiques, l'obligation de certaines pratiques, comme par exemple Lucrèce, ou un lien d'union entre les hommes, ou alors entre les hommes et les dieux. Parce que bien évidemment, dans le paysage des anciens, les Grecs, les Latins, on parlait bien sûr des dieux, on ne parlait pas d'un dieu unique. Alors, d'une manière générale, ça évoquait l'idée d'un sentiment, d'une crainte, et puis de scrupule, d'une obligation à accomplir envers les dieux. L'idée par la suite d'un dieu unique, évidemment conçu comme une puissance morale, a amené évidemment la naissance d'une religion unique avec un caractère moral. Aujourd'hui, quand on parle de plusieurs religions dans le monde, à travers le monde, l'histoire, ou enfin dans les temps actuels, en fait, on fait référence à des systèmes complets qui se donnent, qui se présentent comme étant le seul véritable. Il n'y a pas beaucoup de compatibilité entre eux et il y a beaucoup d'affirmations, un peu de dogmatisme. Alors le mot a exprimé effectivement trois idées fondamentales. D'abord, l'affirmation d'un ensemble d'idées spéculatives. Spéculatives dans le sens de, on doit les accepter comme telles, mais on ne peut pas les démontrer mathématiquement. l'idée d'un ensemble d'actes rituels, un deuxième aspect, et puis d'un rapport entre direct et moral, entre l'âme humaine et Dieu. Alors ça, c'est dans le contexte d'une religion, on va dire, monothéiste, en fait. On peut donc considérer qu'une religion, ça c'est une autre définition, c'est une institution sociale qui est caractérisée par l'accomplissement de rites réguliers, et puis certaines formules que l'on adopte, voilà. Et puis aussi, la mise en rapport d'un individu avec une puissance spirituelle supérieure à l'homme, c'est sûr, et qui peut être conçue comme soit diffuse, par exemple le panthéisme, soit comme multiple, effectivement, on pense à la multiplicité des dieux chez les Égyptiens, enfin autant qu'on puisse le comprendre, hein. On n'est pas dans la pensée véritablement authentique des Égyptiens, mais enfin c'est l'idée qu'on s'en fait. De l'hindouisme, par exemple, avec tous ces dieux, ces 33 millions de dieux, ou alors l'idée d'un dieu unique, en fait. C'est effectivement à peu près, ça recouvre les notions qu'on peut donner sur la religion. La religion donc va opposer le monde qui nous entoure à une autre sorte d'existence, un aspect d'ordre supérieur, et va diviser la réalité totale, et ça c'est un point important aussi quand on va examiner ça à la lumière de la théosophie, divise la réalité totale en différents règnes, différents mondes. Donc sans une foi en Dieu, il ne peut pas y avoir de religion au sens défini là, c'est-à-dire en fait cette relation et cette façon de concevoir la relation entre ce qui est le monde des hommes, on va dire, et puis ce qui est cet ordre des choses supérieures. Alors évidemment, la religion, pour la théosophie, parce que ce qu'on va faire comme commentaire, comme analyse critique, c'est bien évidemment à la lumière de la théosophie, parce que si on est là à écouter cette conférence, cet exposé, c'est qu'on s'intéresse aux idées théosophiques et l'éclairage qu'elles apportent. Alors il y a plusieurs écueils, plusieurs difficultés, qui fait que la religion est un terrain miné. Il y a d'abord la notion de dogme. Le dogmatisme, c'est quelque chose qui est apparu dans l'histoire de la pensée occidentale vers le 15e, 16e siècle, en fait. Et littéralement, c'est un emprunt au grec qui veut dire ce qu'on pense être vrai, un dogme. Ce que l'on pense être vrai. Alors, ça n'a pas une définition absolue, mais ça veut dire que, à partir de ce moment-là, on va définir, on va écrire, et on sait que, par exemple, l'Église chrétienne a fait un certain nombre de conciles et a défini des dogmes. Alors, il y a un autre problème qui est un peu lié à ça, c'est la notion de prêtrise, d'autorité. C'est-à-dire que, il y a des religions monothéistes où la notion de prêtrise est relativement mineure, voire en théorie absente, comme par exemple dans l'islam, mais c'est pas forcément complètement le cas. Mais dans certaines religions dites monothéistes, on voit le rôle que joue la prêtrise et le problème d'autorité qui lui est lié. C'est-à-dire que, par exemple, dans le catholicisme, on voit le rôle que joue le prêtre qui est un intermédiaire quasiment obligé entre l'homme et Dieu. On va se confesser. Bien sûr, il n'y a pas de confession chez les protestants, mais il y a quand même l'idée d'une prêtrise, d'une animation, et donc avec des degrés, donc on ne va pas dogmatiser cela, mais disons qu'il y a des nuances qui existent. Donc le problème de la prêtrise, et il se pose aussi en Orient, avec les religions de l'Orient, pour autant que ce sont des religions, on va peut-être dire un mot là-dessus, mais en fait, c'est l'intermédiaire. Quand vous allez dans un temple hindou, vous avez besoin de quelqu'un qui va faire le nécessaire pour intercéder auprès de vos demandes. Donc en fait, il va jouer le rôle d'intermédiaire, et effectivement, au-delà d'une autorité qui va s'imposer comme un pape ou comme des évêques, etc., qui vont définir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, il peut y avoir un rôle de prêtrise qui va effectivement entacher complètement cette dénaturer la véritable religion. Il y a un autre aspect qui est un écueil, évidemment, c'est la notion du surnaturel, en fait. Parce que le surnaturel, pour la théosophie, c'est lié à l'ignorance, c'est lié au fait que il y a des phénomènes. Alors, on va raconter qu'à l'époque, le feu, quand il y a eu la naissance du feu, ça, ce sont des romans que la science a construits, mais qui n'ont pas de base vraiment philosophique. Mais on va raconter, par exemple, que bon, bah, quand les hommes, les premiers hommes, les hommes des cavernes, voyaient des phénomènes naturels et qu'ils comprenaient pas, bah, finalement, ils ont dit, bah, il y a des choses au-delà et on a construit une espèce de schéma analytique pour aller au-delà et voilà. Alors c'est comme ça un peu que est né le surnaturel. Maintenant, pour la théosophie, Madame Blatsky insiste beaucoup, on va voir dans d'autres aspects plus loin dans l'exposé, mais Madame Blavatsky insiste pour dire que derrière ce qui apparaît être de la superstition, parce que bon, il y a un pas évidemment facile à franchir entre le monde du surnaturel et la superstition, il y a effectivement derrière ce que l'humanité a récolté au fur et à mesure des générations, des siècles, à travers les symboles et l'utilisation de ces symboles et leur origine, en fait, il y a des vérités qui se rapportent à la nature et qui sont effectivement plus ou moins oublié, et que, on va voir, c'est un des aspects de ce mouvement théosophique moderne, c'est de les restaurer dans leur côté scientifique, en fait. Alors, un dernier mot, mais quand même qui est très important à garder en tête à propos de la religion, deux choses. D'abord, l'évolution historique, on l'a dit. Dans la pensée grecque, il n'y a pas une des religions, il y a des rituels, il y a un certain nombre de, effectivement, de comportements qui ont été définis et qui sont effectivement, qui constituent un certain nombre de communautés en fait. Au cours de l'évolution de la pensée dans le monde occidental, quand il y a eu effectivement la fin de l'école des néoplatoniciens, on a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas très longtemps, effectivement, on voit qu'a émergé la notion d'une pensée unique, effectivement l'obligation d'être chrétien, et c'est la montée du christianisme qui est devenue dogmatique à cette époque. Donc le Moyen-Âge, qui donc a commencé officiellement avec avec la chute de l'Empire romain d'Occident, en fait, en 400 et quelques, au 5e siècle, en fait, il y a eu véritablement un déclin d'un certain aspect de la pensée collective de l'humanité pour s'orienter, et déclin qui s'est accompagné aussi d'une disparition de l'aspect philosophique vraiment, en tout cas au départ, et puis qu'il a fallu attendre la sortie du Moyen-Âge pour vraiment retrouver la dimension philosophique. On va parler de la philosophie après. Et tout ça parce qu'on a mis en place l'idée d'un Dieu unique, en fait. Alors, un dernier mot, mais quand on regarde le globe en Orient, la notion de religion, en fait, c'est le mot dharma, en fait. Tout le monde connaît un peu maintenant comme on connaît le mot karma. On connaît aussi le mot dharma qui vient de la racine dri, en sanskrit, qui veut dire soutenir en fait. Mais le dharma, c'est aussi à la fin la loi, c'est-à-dire en fait, c'est ce qui fait que l'univers est quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est une unité, et qu'il est possible de se mettre en union, de se mettre en résonance, en harmonie avec cet univers qui effectivement existe, comme on va le voir, sur plusieurs plans. Donc le mot dharma n'a pas du tout le sens de connotation d'un enseignement unique, effectivement, et il y a d'autres mots pour définir le rituel, mais on va retrouver ce mot qui a été mis en épingle beaucoup, en particulier dans le bouddhisme, et qui effectivement au départ le sens de la loi de l'univers, c'est-à-dire la façon de comprendre comment l'univers fonctionne, et ensuite se conformer par son comportement avec ces lois de l'univers. Donc on voit quand même que, bon, progressivement, on voit la pensée occidentale, philosophie qui commence à découvrir ou à s'ouvrir un peu à l'Orient, mais bon, il serait effectivement grand temps pour la philosophie. Alors il faut parler maintenant, on va parler un peu dans l'ordre de la science, c'est pas l'ordre du titre, mais bon, ça n'a pas d'importance. Pourquoi la science? Parce qu'on va laisser la philosophie en dernier, parce que la philosophie pour nous, c'est ce qu'il y a de plus pratique et c'est ce qui est de plus important en fait. Enfin bon, tout est important bien sûr, mais par rapport à cette triade de religion, de science et de philosophie, la philosophie c'est ce qui nous concerne au plus près en fait. Alors la science, si on regarde bon, les dictionnaires, l'étymologie, alors en grec c'est épistémé, d'où vient le mot scientifique l'épistémologie, c'est-à-dire l'histoire effectivement des sciences au cours des âges. Le mot en latin, scientia, scientia, ça désigne en fait le savoir, la connaissance en fait. En sanskrit, puisqu'on a parlé tout à l'heure du sanskrit, le mot est vidya, comme par exemple qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita, Brahma vidya, c'est-à-dire c'est la science du divin, de Brahma, l'univers manifesté ou le divin, le pouvoir divin manifesté. Ça vient de la racine vid qui veut dire connaître en fait. Donc connaître et comprendre. Donc la science, c'est par essence ce qui va chercher à connaître et à comprendre. Alors dans les dictionnaires, bon, on va citer quelques définitions, mais ça va être rapide. En fait, il y en a plusieurs, mais celle qu'on a retenue la désigne comme un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résulte pas de conventions arbitraires, ni de goûts ou d'intérêts individuels qui leur sont communs, mais qui sont des relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Donc il y a l'idée qu'une science est évolutive. Et on le voit, il suffit de penser à l'idée, est-ce que la Terre est au centre du monde? C'était l'époque de la version exotérique de Ptolémée. En fait, on pensait, bon, c'était la vision de l'époque que la science partagée, enfin la science, que les savants, en fait, qui étaient aussi des philosophes, pensaient que la Terre était au centre du monde. Ça n'était pas la vraie connaissance, puisque pour la théosophie, pour Blavatsky, la vraie connaissance était ésotérique, donc les véritables connaisseurs savaient que la Terre n'était pas au centre du monde. Mais voilà, aujourd'hui, personne ne va affirmer, à part des gens qui sombrent un petit peu dans l'obscurantisme, personne ne va affirmer que la Terre est au centre du monde. Donc on voit bien que les sciences sont amenées par essence à évoluer. C'est quelque chose qui va amener des découvertes progressives, graduelles, et qu'on va vérifier. Donc on va voir tout à l'heure, mais il y a des choses un peu plus tard, il y a des choses importantes par rapport à la philosophie, qui vont opposer un peu la philosophie et la science. Alors si on regarde Platon, parce que bon, les Grecs, il faut quand même ne pas les ignorer, pour Platon dans la République, il y a deux degrés, il y a la pensée discursive, c'est-à-dire le raisonnement, qui s'appelle dianoïa, et puis épistémé, c'est-à-dire c'est la connaissance parfaite. Et les deux sont réunis dans ce qu'on appelle noésis, c'est-à-dire le nous en fait, c'est-à-dire la science, le domaine du nous. Ce sont deux degrés de la connaissance. On voit bien que les dialogues de Platon, ça relève du domaine du raisonnement, du discursif en fait. Pour Aristote, et bon, c'est une autre définition, mais qui est valable aussi, il n'y a de science que lorsque nous savons que les choses ne peuvent pas être autrement. La science concerne le nécessaire et l'éternel, Donc ça, c'est effectivement, il met un peu l'objectif haut, Aristote, qui était un très grand philosophe, même s'il n'était pas initié pour Madame Blavatsky. Alors dans Plotin aussi, on trouve 3 degrés de connaissance humaine. Hein, c'est 3 degrés ascendants, l'opinion, la science et l'illumination. Alors il expliquait que les moyens pour accéder à l'opinion, c'était effectivement les sens ou la perception, c'est-à-dire la perception, c'est ce que notre mental fabrique à partir des messages des sens. La science, effectivement par la dialectique, donc c'est le raisonnement, la dialectique c'est tout le raisonnement discursif en fait. Et puis l'illumination, donc le moyen pour l'illumination, c'est l'intuition, ou ce que Madame Blavatsky appelle l'instinct divin. C'est celle, la raison lui est subordonnée, c'est-à-dire que la raison est subordonnée à l'illumination. C'est une connaissance absolue, alors ça c'est toujours ce que dit Plotin, qui est fondée sur l'identification du mental avec l'objet connu, l'objet de sa recherche. Donc, on voit bien que là, Plotin nous emmène dans une appréhension de ce qu'on pourrait appeler le yoga, ou l'extase, effectivement, la véritable connaissance qui est illumination, c'est la fusion du connaisseur avec l'objet de sa connaissance. Patanjali dit la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme analyse théosophique de cette notion de science telle qu'elle est présentée ici? Alors, évidemment, pour la théosophie, il y a 2 choses à dire. D'abord, il faut relever ce qui est un élément très positif, c'est que, et la théosophie le souligne, il y a des lois immuables dans la nature qui sont en tout et qui sont en toutes circonstances. C'est-à-dire, en fait, c'est une question de cohérence et il faut postuler que la loi prévaut partout et qu'elle est universelle. Donc c'est le sens d'universel, indépendamment du temps et de l'espace. Donc ça c'est un point évidemment très important qui va permettre de poser la possibilité d'explorer les sciences. Parce que s'il n'y avait pas ça, évidemment aucune possibilité d'arriver à cette découverte de ces sciences en profondeur. Alors évidemment, un des écueils qui a été souvent présenté et que la théosophie a souligné, c'est le problème des différents plans. Alors chez les Grecs, il y avait le monde des hommes et le monde des dieux, et puis il y avait des mondes intermédiaires. Enfin, si on regarde Jean Blic et d'autres penseurs, enfin, etc., on voit qu'il y avait des nuances, bien entendu. Si on pense à la caverne de Platon, le mythe, l'allégorie de la caverne, on voit bien qu'il y a différents niveaux, qu'on ne voit pas tout de suite au soleil, mais qu'on sort, etc., et qu'il y a des niveaux intermédiaires, etc. Donc, mais c'est, bien sûr, la science, si elle veut prétendre avoir le statut de véritable science avec un grand S, elle doit être complète. Or, le problème aujourd'hui de la science moderne, c'est qu'elle n'est pas complète en fait. On utilise trop facilement l'épouvantail de la superstition. C'est trop facile de dire, voilà, par exemple, il a fallu un siècle, même plus peut-être, là on en est au 21e siècle, pour que la parapsychologie ait aujourd'hui des lettres de noblesse soient reconnues comme une science à part, c'est-à-dire qu'on puisse faire des observations et des expériences, et en tirer un certain nombre de lois. Mais c'est trop facile, il y a des savants, il y a des chercheurs scientifiques encore récemment qui publient des livres pour essayer de démonter l'idée que la parapsychologie, c'est de la bêtise. Bon, c'est pour la théosophie, évidemment, la véritable science doit prendre en compte tous les plans, les plans visibles et invisibles, et réaliser que nous sommes évidemment fabriqués sur ce schéma, c'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, et un peu de réflexion devrait nous en convaincre. Et où est-ce qu'on est dans le plan des rêves? Où est-ce qu'on est dans le sommeil sans rêve, etc.? Où est-ce qu'on est entre deux vies? Qu'est-ce qu'on fait, etc.? Est-ce que la conscience s'éteint? Tout ça, ce sont des conditions, effectivement, qui nous amènent à réfléchir dans ce sens-là. En Orient, bien évidemment, on tient compte de ces aspects. Et il y a évidemment la prise en compte. Alors bon, on a cité la Bhagavad Gita, on a cité les aphorismes de Patanjali, il y a différentes écoles de pensée qui, bien évidemment, montrent que la véritable science doit prendre en compte. Par exemple, Patanjali le dit, l'univers est fait des mondes, de tous ces aspects visibles et invisibles, en fait. Donc, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Voilà, donc, voilà ce que l'on peut dire à ce stade sur, comme critique un peu sur la science. Bon. Maintenant, on va passer à la philosophie. Alors là, c'est un morceau, effectivement, très important, comme on l'a annoncé, parce que la philosophie, c'est ce qui, peut-être, devrait nous préoccuper le plus. Bien sûr, nous pouvons être des scientifiques, mais on laisse aux scientifiques l'exploration de leur domaine. On peut être des hommes religieux, effectivement, et là, on va voir un peu le sens qu'il faut donner à la religion, mais la religion au sens des religions traditionnelles, la philosophie, c'est autre chose, en fait. Alors, la philosophie. Alors, il y a plusieurs définitions, en fait. Philosophia, c'est... c'est quelque chose qui, traditionnellement, viendrait de Socrate, de Pythagore, pardon. C'est le mot philosophos, il s'était appelé philosophos par humilité, parce qu'il ne voulait pas se faire appeler sage, en fait. Sophos, en grec, c'est l'homme qui est habile, c'est celui qui connaît, qui sait les choses, en fait. Donc, il voulait par là dire qu'il était un amant qui voulait être celui qui recherche, celui qui aime cette habileté, cette sagesse, si vous voulez, donc, par humilité. Ensuite, Socrate aussi s'est un peu aligné dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme définition? La philosophie, bon, on va présenter quand même quelques éléments parce que ça mérite. Alors, d'un côté, on trouve cette définition, par exemple, chez Aristote, dans sa métaphysique, c'est un savoir rationnel. Rationnel, ça veut dire qui résulte d'une dialectique, de discours, d'un échange, d'une discussion intelligente, en fait. Hein. C'est une science au sens le plus général du mot. D'où la distinction fondamentale que lui fait entre la philosophie et la religion. Il dit que la philosophie, elle repose sur l'expérience et la raison, et la seconde sur la révélation et la foi. En fait, c'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est reçu, qui est admis. On va le voir évidemment illustré dans la pensée chrétienne, hein, au plus haut point. Alors, on peut définir la philosophie comme un effort vers une synthèse totale, vers une conception d'ensemble de l'univers. La philosophie, c'est ce qui cherche à embrasser l'univers et en tirer un certain nombre d'une connaissance unifiée. C'est par exemple la définition que donne Spencer. Il y a la connaissance du plus bas niveau, c'est une connaissance qui est non unifiée. La science, c'est une connaissance qui est partiellement unifiée. Et puis, on va pas parler de la théorie de la recherche de la relativité généralisée, enfin tout ce que les physiciens essayent de faire. Et puis il y a la philosophie pour Spencer, c'est une connaissance complètement unifiée. Donc en fait c'est cette idée d'arriver à un haut degré de généralisation. Alors on peut définir donc, c'est aussi l'ensemble de l'étude de l'esprit tant qu'il se distingue de ses objets, donc par opposition à la nature. La philosophie disserte sur l'origine de nos connaissances, sur les principes de certitude, et cherche à pénétrer dans la raison des faits plutôt que sur les faits eux-mêmes. Donc en fait, c'est un peu une espèce d'analyse critique de la science, en fait, et des raisonnements de la science. Bon, il y a aussi évidemment sa propre philosophie, chacun a sa philosophie de la vie qui consiste à regarder les choses un peu d'en haut et puis à supporter avec sérénité des accidents de la vie. Alors, bien sûr, les hindous, on fait juste une parenthèse, mais les hindous, quand même, il ne faut pas les oublier. Pour les hindous, il y a plusieurs écoles, il y a 6 écoles qu'on appelle des darshanas. Darshana, ce sont des points de vue, en fait. Hein, ça veut dire, ça vient de la racine voir, en fait, vision, en fait. Hein, darshana, c'est la vision. Donc, c'est le fait de voir. Donc, ça veut dire qu'on peut adopter des points de vue, par exemple matérialiste, déiste, etc., agnostique, védantiste, advaitiste, etc. Donc, ce sont les différentes philosophies qui sont pour l'hindou, en fait, qui représentent toutes les possibilités vraiment d'expression de la pensée philosophique, en fait. Alors, quand on a dit que la philosophie, c'est l'effort vers une synthèse totale, évidemment, on peut peut-être juste donner une dernière définition. C'est une définition moderne qu'on doit à Comte Sponville, en fait. Donc, ce philosophe moderne, qui est assez intéressant parce qu'elle reprend quelques éléments. Et on va voir que c'est le... Alors, il dit, c'est une pratique donc raisonnable, discursive, mais qui est non scientifique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas logiquement démontrable. La philosophie n'est pas logiquement démontrable, contrairement, par exemple, aux mathématiques. Elle n'est pas non plus empiriquement falsifiable. Alors ça, on le doit effectivement à la réflexion du philosophe Popper, en fait. C'est empiriquement falsifiable, ça veut dire qu'on ne peut jamais démontrer qu'une théorie est vraie et qu'on ne peut jamais dire, par exemple, on a fait 10 000 expériences, et bien peut-être sur la 1001e expérience, on va invalider la théorie. Et ça, donc, c'est le fait, dans les sciences expérimentales, qu'on ne peut jamais affirmer qu'une théorie ne peut jamais être contredite par l'expérience. Alors que la philosophie ne relève pas de ça, en fait. On ne peut pas la démontrer, la falsifier empiriquement. En fait, c'est une réflexion de l'esprit. Elle ne se soumet qu'à la raison et à l'expérience. C'est important, ça, de souligner ce point. Elle ne se soumet qu'à la raison et à l'expérience, évidemment à l'exclusion de toute révélation d'origine transcendante ou surnaturelle. Elle vise à connaître, moins à connaître qu'à penser ou questionner, à réfléchir sur ce que nous savons plutôt que ou ce que nous ignorons. À réfléchir sur ce que nous savons ou ce que nous ignorons. Ça fait penser évidemment à cet adage de Socrate, qui était sur le fronton du temple de Delphes, « Homme, connais-toi toi-même ». En fait, on voit bien que là, on est sur une analyse de l'homme dans son fonctionnement et qu'effectivement, la science est un domaine différent. La science est un domaine évolutif. Alors que si on regarde la philosophie, aujourd'hui, bon, il y a peut-être quelques philosophes qui se révèlent pas forcément très très intéressants, que l'histoire n'a pas... pas conserver la mémoire, mais on parle toujours des pré-socratiques, on parle toujours de Platon, de Socrate, enfin de toute une série, on a vu les néoplatoniciens, tous ceux qui sont venus, il y a chacun finalement à apporter sa pierre à l'édifice. Alors, effectivement, on va maintenant, on ne va pas aller plus loin l'analyse de la philosophie, parce qu'on va y revenir pour la théosophie. Alors maintenant, il nous faut rentrer un petit peu dans le mouvement théosophique moderne lancé par Madame Levatsky, parce qu'il faut montrer quel est l'apport spécifique de la théosophie par rapport à ça, et par rapport à cette idée de convergence. Alors Madame Levatsky a fondé ce mouvement théosophique moderne, à la fin du 19e, sur trois piliers. D'abord, le principe de l'unité fondamentale, l'un on dirait dans la déclaration la réalisation du soi, le soi universel, on parle aussi de fraternité universelle. Ça veut dire que toute la vie est une, sans distinction. En fait, on ne peut pas extraire la vie d'un endroit ou d'un autre. On y reviendra. Ensuite, souligner évidemment le troisième pilier de cette démarche, de ce mouvement théosophique moderne, c'est l'étude des philosophies, religions et sciences anciennes et modernes, démontrer aussi l'importance d'une telle étude. Et en particulier pour lutter contre l'emprise de la prêtrise, de l'erreur et de la superstition. Donc évidemment, il faut apporter des clés de connaissance pour lutter contre la superstition. Il faut aussi déjouer le problème de la prêtrise, montrer comment l'homme est responsable de sa destinée, etc. Enfin, on connaît un petit peu ces idées. Alors, il y a un troisième pilier de ce mouvement théosophique moderne, c'est l'investigation des lois qui sont inexpliquées de la nature et des pouvoirs psychiques qui sont latents dans l'homme. Bon, effectivement, faire l'investigation, ça ne veut pas dire expérimenter. Le véritable occultisme pour la théosophie, pour les vrais théosophes, c'est la compréhension des fonctionnements, du fonctionnement du mental et de l'âme, en fait, et non pas des expériences psychiques. Le véritable occultisme, la compréhension des fonctionnements du mental et de l'âme. Alors, on peut même aller plus loin, d'après la théosophie, en fait, elle dit que il est très très important d'observer pour appliquer à soi-même ce troisième but, ce troisième pilier de ce mouvement théosophique moderne, c'est l'importance de s'observer dans sa vie de tous les jours, de faire des... parce qu'on fait des expériences et on devrait essayer d'en tirer les lois, de les découvrir quelles sont ces lois. Et que, effectivement, celui qui fait ça, et qui fait cette étude de soi, en fait, hein, il est vraiment en train de mettre en œuvre, d'une certaine manière, ce troisième pilier de ce mouvement théosophique moderne. Alors maintenant, il nous faut avancer, on va rapidement passer au dernier volet de notre exposé, qui est bon, évidemment, qui est incontournable là aussi, c'est la doctrine secrète de Madame Blavatsky, qui est cet ouvrage qui a été publié donc en 1888 avec la dédicace pour les théosophes, parce que l'étude qui a précédé entre 1875, avec qui j'ai dévoilé quelques articles dans les revues théosophiques, des contributions de théosophes de l'époque, de Blavatsky et d'autres, de Judge, de Subarao, d'autres théosophes. En fait, la doctrine secrète, elle porte dans sa première page, effectivement, bon, c'est un ouvrage énorme en deux volumes, mais elle dit, voilà, c'est la synthèse, donc la doctrine secrète, la synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. Et en dessous, il y a la devise du Maharaja de Benares, qui a été reprise par la société théosophique de l'époque, par le mouvement théosophique moderne, on va dire, il n'y a pas de religion de dharma, c'est-à-dire en fait de science religieuse supérieure à la vérité. Donc en fait, l'objectif final, c'est la vérité en fait. C'est ça, et qui se confond évidemment avec la recherche de la sagesse. Alors on va faire quelques remarques sur ce qu'elle nous dit. Dans la préface, par exemple, elle dit que les vérités qui sont présentées dans ce livre ne sont pas présentées comme des révélations. L'auteur ne se présente pas comme quelqu'un qui va apporter des révélations. Tout ce qui est contenu là, on les retrouve, dit-elle, dans les écritures, des grandes écritures asiatiques, aussi des premières religions européennes, aussi cachées sous la forme de glyphes et de symboles, comme ça a été dit dans l'introduction. Ces enseignements qui n'appartiennent pas exclusivement ni à l'hindouisme, ni au zoroastrisme, ni au chaldéisme, ni à l'Égypte, ni à la religion égyptienne, ni au bouddhisme, ni à l'islam, ni au judaïsme, ni à la chrétienté, exclusivement. La doctrine secrète, dans le sens de religion-sagesse, on va voir ce terme, c'est en fait l'essence de tous ces enseignements. C'est le tronc commun. Et donc, Il faut voir qu'elle ne fait pas appel à aucune autorité dogmatique parce que Elle dit dans la préface, hein, et ça aussi il faut le noter au passage, en fait, pourquoi? Parce que, quelle est l'autorité de la doctrine secrète? C'est parce qu'elle adhère de manière étroite à la nature, suit les lois d'uniformité et d'analogie, on pourrait dire de correspondance et d'analogie. Uniformité ou correspondance. On retrouve chez les néoplatoniciens aussi, bien évidemment. Alors, le terme religion sagesse, elle en a parlé dans la clé de la théosophie, elle dit c'est l'héritage de toute l'humanité, pas du monde entier, pas d'une époque, et ça remonte évidemment, là on ne peut pas développer le point, mais ça remonte à l'enfance de l'humanité il y a des millions d'années, quand des grands sages de cycles antérieurs sont venus s'incarner parmi l'humanité, parmi les hommes, pour rapporter les enseignements primordiaux qui ont été ensuite préservés et qui constituent ce trésor qu'est la religion sagesse. Elle a toujours été une, dit-elle dans la clé, elle est comme le dernier mot de toute connaissance humaine possible, de toute connaissance humaine possible, donc elle a toujours été soigneusement préservée, elle existe depuis de longs âges, l'histoire, l'enfance de l'humanité, et elle survivra, elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours, à toute religion et philosophie. Elle survivra à toute religion et philosophie. Elle a été préservée dans le cercle des initiés de tous les pays. Alors elle cite, et aussi parmi les chercheurs profonds de la vérité, leurs disciples. Donc voilà. Alors rapidement, il y a évidemment, on va avancer parce que le temps passe, mais on va dire quand même quelques mots de ces trois propositions fondamentales de la philosophie, de la doctrine, de la théosophie. Mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'il s'agit bien de propositions en rapport avec la philosophie, parce qu'elle dit quand on a réalisé clairement la lumière qu'ils apportent dans notre vie de tous les jours, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de, pour nous-mêmes, donc chacun doit faire ça pour lui-même, de justification à ses yeux, parce que la vérité lui deviendra évidente comme le soleil en plein jour. En fait, ces idées fondamentales sont les piliers de la philosophie, de la théosophie. Donc alors bien sûr, il y a l'idée de l'unité qui est incontournable, qu'on a vu dans le premier de ces trois piliers du mouvement théosophique moderne qui doit être postulé, c'est l'idée de l'unité sous trois aspects, la conscience, la vie et la matière, et ça s'applique partout, l'homme, l'atome, l'univers, à tous les niveaux. L'homme, nous sommes un centre par lequel l'un se manifeste et que, effectivement, comme le reste de la vie. Le deuxième point, c'est la périodicité, c'est la réincarnation, c'est le karma, c'est la loi cyclique, c'est la vibration, l'expansion, la contraction. En fait, c'est la naissance et la mort. Quand il y a eu, dit Blavatsky, la séparation entre l'esprit et la matière au moment de la construction de cet univers, de la reconstruction de cet univers, c'est là qu'a pris naissance la tendance à passer de l'un dans l'autre, qu'on retrouve dans le mythe d'Aristophane, chez Platon, qui est effectivement l'homme qui a été séparé en deux parties, en fait masculin et féminin, et qui se cherche sans arrêt. C'est une évocation aussi de l'idée de la bipolarité qui passe par le neutre, et si on veut, le caducé aussi. Alors l'évolution, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage de quoi? Le pèlerinage de la monade, c'est-à-dire en fait, c'est une essence spirituelle d'étincelle. C'est cette étincelle spirituelle qui est partout, parce que l'unité est là, elle est partout. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'on appelle l'ego en théosophie, c'est-à-dire c'est la dimension de cette monade qui devient un ego, c'est-à-dire quelque chose de pensant, un penseur en fait. Et puis, il y a la dimension matérielle. Donc, la théosophie dit qu'il y a trois courants évolutifs qui se rencontrent dans l'homme, et c'est effectivement ces trois choses qui font que l'homme est un être complexe, mais en même temps qui porte en lui, parce qu'il a cette dimension d'intelligence qui le rend responsable, qui porte en lui les clés de sa destinée. Alors maintenant, on va terminer. Bon, quelles sont les implications? Donc on l'a vu, la vie est une partout, le soi, tout est vivant, tout va de l'intérieur, se déploie de l'intérieur vers l'extérieur. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que nous-mêmes, et c'est une question philosophique, c'est pas une question scientifique, ou c'est pas une question religieuse, c'est une question philosophique, sommes-nous prêts à accepter toutes les conséquences, en fait, de ces idées philosophiques? Bien sûr, la théosophie montre, dans sa philosophie, ce qu'on a vu, montre un chemin, mais ce chemin doit être parcouru par chacun, en fait. Alors, il y a les maîtres, mais il ne faut pas croire à la superstition que les maîtres vont nous tirer d'affaire, vont nous tirer en avant, nous apporter des privilèges. Ça, c'est ne pas comprendre ce qu'est la véritable philosophie. En fait, les maîtres sont quoi? Ce sont des réalités, des exemples. Ils montrent la voie. Ils ont bien évidemment développé la science dans toutes les dimensions qu'on a évoquées, c'est-à-dire elle est religieuse, scientifique, philosophique au sens le plus profond. Et ils nous invitent à faire confiance à la vie, faire confiance aux autres. On se souvient du passage de la doctrine secrète dans lequel les deux tiers des maux de l'humanité disparaissaient si on faisait confiance aux autres autour de nous. Il faut accepter notre parcours, notre responsabilité karmique. Tout est une histoire d'opportunité. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire des exercices physiques du yoga à la place d'un autre? Évidemment, c'est ridicule. C'est à nous de relever le défi de la vie et